Bonjour à tous, et merci beaucoup de votre invitation à pouvoir présenter ici la question de la réutilisation sous un angle, comme le titre du diaporama vous l'indique, sous un angle qui sera essentiellement juridique, d'autant plus que pour ceux qui ont suivi cette question depuis quelques années, le droit, disons, n'était pas aussi stable qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de vous présenter un panorama du droit qui, pour peut-être quelques années au moins, et il faut s'en réjouir, ne va pas trop bouger, et donc de faire un peu un bilan. Alors, je vais peut-être dire des choses évidentes, mais j'essaierai de regarder vos visages pour voir si vous vous ennuyez, auquel cas je passerai plus vite aux diapositives qui suivent. Commencer par une définition juridique de ce qu'est la réutilisation. En fait, on n'a pas vraiment changé depuis la préhistoire, et je suis heureux de l'apprendre aujourd'hui, je vais pouvoir le dire à mes collègues archivistes à qui je fais ce genre de présentation. La réutilisation, comme vous le montre cet objet, c'est une utilisation à d'autres fins que celle de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. C'est la définition juridique en France de la réutilisation. Donc on est bien dans le cas, par exemple, d'un parapluie décoré de l'image numérique, du fichier numérique de la reproduction de la Joconde. Je vous donnerai ensuite d'autres exemples de réutilisation qui vous paraîtront peut-être moins accessoires. La définition, elle est celle-là. Et le nom même, hein, on parlait tout à l'heure de mot réutilisation, c'est le terme juridique employé par la loi française, issu du droit européen. Je vais y revenir. Pour faire simple, on réutilise quand un tiers utilise des données qui ont été produites dans un autre contexte, que les fins soient commerciales ou non, et on détourne en fait, d'une certaine manière, un document produit dans un contexte bien précis. La notion, comme je l'ai dit, elle est née à la fois de la mutation numérique de la société. Là, je n'ai pas besoin d'y revenir, vous en êtes tous convaincus après la présentation du début de cette matinée. C'est une notion au départ qui est anglo-saxonne, c'est le mot « reuse » en anglais, a été traduit par « utilisation » en France, qui est issue d'une directive européenne de 2003, et transposé en 2005 dans la loi CADA, la loi qui concerne l'accès aux documents administratifs. Et cette directive a été profondément révisée à son tour en 2013. Et à chaque fois, vous savez, les directives européennes nécessitent d'être adaptées en droit français, transposées, comme on dit, en droit français. Donc la grande loi qui a bien modifié le champ de la réutilisation, c'est la loi dite Walter du 28 décembre 2015, et qui a elle-même été un petit peu précisée par la loi pour une République numérique, la loi Lemaire, du 7 octobre 2016. On est dans effectivement, aujourd'hui, si vous cherchez le texte de référence sur la réutilisation, le plus simple, c'est de se reporter au ce qu'on appelle le CRPA, le Code des relations entre le public et l'administration, qui traite à la fois du droit d'accès aux documents administratifs. Vous allez voir que dans les domaines qui nous concernent, ce droit a un impact très important sur la réutilisation et qui a un chapitre entier consacré donc à la réutilisation. C'est donc un droit articulé avec le droit d'accès dont vous avez entendu parler hier. Ce droit permet de déterminer si un document est communicable ou non, à qui il est, selon quelle modalité. C'est également un droit qui est articulé avec une notion qui est apparue en 2016, celle de l'obligation de publication en ligne, donc apparue, lui, dans la loi pour une République numérique, dans la loi Lemaire. On est donc à la fois dans le domaine de la transparence, l'accès aux documents administratifs, l'accès aux données, et aussi ce que Axel Lemaire avait joliment appelé la redevabilité démocratique. Donc on va voir quelles applications cela a. Redevabilité démocratique, accès, transparence, ce sont des notions donc, qui sont connexes à la notion de réutilisation et encouragées par les autorités européennes, on vient d'en parler, mais aussi par un certain nombre d'organismes et de pouvoirs publics français, j'en donnerai quelques exemples également, dans l'objectif, hein, on est dans le cadre général de la réutilisation, de développer l'économie, de favoriser la transparence démocratique, l'engagement citoyen, la connaissance, etc., etc. Quelques exemples de réutilisation volontairement pris dans un autre contexte pour bien vous montrer jusqu'où ça va. Pourquoi je viens avec des pompes à essence vous parler de réutilisation devant vous, archéologues ? Parce que la réutilisation permet ce genre d'application. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais vous avez des sites qui vous permettent de comparer le prix à la pompe de l'essence. Pourquoi ? Parce que un service, ici le site monessence.fr, a réutilisé des données issues du ministère des Finances qui lui permet de savoir quels sont les prix, à quels endroits, et ensuite de proposer avec un algorithme, un comparateur et faciliter, disons, l'accès à une pompe à essence qui est la moins chère en fonction du lieu où on se trouve. Ça, c'est typiquement un cas de réutilisation puisque le fait de transmettre au ministère des Finances le prix de l'essence n'est pas le même, c'est pas le même motif, c'est pas la même mission que ensuite de proposer un service qui facilite l'accès à cette même pompe. Donc on est dans le domaine de la réutilisation puisque l'objectif est différent de la mission dans laquelle ou pour laquelle les données ont été collectées. Autre exemple, vous avez peut-être récemment acheté une voiture et vous avez peut-être vu en bas de la fiche que l'on vous fait remplir. En tout petit, hein, c'est souvent le cas. Je m'oppose, je le lis, c'est tout en bas ici. Je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale. Et si vous avez oublié de cocher cette case, sans surprise, vous avez reçu des publicités de feu vert, auto plus ou je ne sais quoi, qui en plus spécialement adaptées à votre voiture. Pourquoi ? Parce que ces entreprises commerciales ont réutilisé les données que vous aviez fournies à l'entreprise, pour l'établissement de la carte grise, donc au ministère de l'Intérieur, et avec vos coordonnées personnelles, ont pu vous adresser des courriers adaptés à l'achat de votre véhicule. Là aussi, on est dans le cadre de la réutilisation. C'est plus lié du tout à la carte grise, c'est lié à des fins commerciales. Et enfin, un dernier exemple, vous avez des tas de sites comme ça qui réutilisent des données issues, par exemple ici, du ministère également des Finances et qui permettent de savoir, en fonction d'une région, en fonction d'une commune, quelle est l'évolution dans le temps de la taxe foncière par habitant. Là aussi, outil pour le coup de transparence, transparence démocratique. On est donc là dans le champ de la réutilisation. Souvent, on parle de réutilisation d'open data. Ce sont deux choses différentes. La réutilisation, c'est un grand concept. L'open data, c'est un plus-plus de la réutilisation. Une réutilisation dans des formes particulières qui sont celles-ci. C'est d'abord donc une réutilisation libre, sans contrôle de l'usage a priori. C'est-à-dire que vous donnez des données sans orienter l'usage qui en sera fait. Et même ce qui peuvent vous paraître être des mésusages, par exemple des usages commerciaux, une réutilisation gratuite de données qui seront donc accessibles et surtout dans des formats ouverts et lisibles par des machines. Si vous mettez en ligne un PDF, vous ne faites pas de l'open data. Pourquoi ? Parce qu'un PDF, on ne peut pas le réutiliser. Si vous mettez un tableur en PDF et que vous ne mettez que le PDF en ligne, on ne pourra pas réutiliser votre PDF. En revanche, quelqu'un qui voudra faire un tri de données, faire une exploitation de données, va mieux s'en sortir avec un tableur Excel parce qu'il n'aura pas à ressaisir en gros toutes les données dans les champs dans lesquels ils étaient classés. Et tout cela est donc, comme je vous l'ai dit, encouragé par les pouvoirs publics. Vous avez la structure étalable, le site data.gouv.fr, qui sont les structures nationales qui coordonnent cette politique d'ouverture, cette politique de réutilisation et qui donnent des plateformes génériques comme ce site. Alors, quels sont les champs respectifs de l'open data et de la réutilisation ? Vous l'avez compris, sont un peu des poupées russes, hein, l'open data étant la petite poupée à l'intérieur de la plus grande qu'est celle de la réutilisation. Alors, premièrement, on va commencer par la réutilisation. Toutes les données publiques ne sont pas réutilisables. Je parle ici donc du droit, donc effectivement du droit qui se sente hein, sur les données publiques. Premièrement, ne sont pas réutilisables les données qui ne sont pas légalement communicables. Là, je vous renvoie à la journée d'hier, pendant laquelle on vous a longuement parlé de ce qui était communicable, de ce qui ne l'était pas. Vous ne pouvez pas mettre, par exemple, proposer à la réutilisation l'adresse d'un particulier. L'adresse d'un particulier dans un document public, c'est une information qui est protégée par le secret de la vie privée et qui n'est pas communicable avant 50 ans. C'est l'autre partie du code des relations entre le public et l'administration qui concerne l'accès. Mais on voit bien que c'est le même texte hein, qui gère les questions d'accès et les questions de réutilisation. Donc, une donnée qui n'est pas librement communicable, vous l'excluez de toute votre réflexion sur la réutilisation. Deuxième type de données qui n'est pas réutilisable, les données qui sont grevées de droits de propriété intellectuelle. Évidemment, sauf, je vais y revenir plus tard, si vous avez négocié l'obtention de ces droits de propriété intellectuelle. Donc, c'est un deuxième champ pour lequel, j'allais dire, les lumières doivent s'allumer quand vous vous posez la question d'une réutilisation. Dans ces deux champs-là, quand ce n'est pas communicable, aucune dérogation possible. Lorsque c'est grevé de droits de propriété intellectuelle, il faut penser à l'acquisition, à la négociation de ces droits. Troisième élément qui doit faire bip-bip quand on pense à la réutilisation, un type particulier de données dont on a beaucoup parlé ces dernières années, les données à caractère personnel. On en a beaucoup parlé depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Vous avez tous reçu des mails qui vous ont dit est-ce que vous êtes sûr que vous vouliez vous abonner à tel site pour lequel vous receviez des publicités, par exemple, ou des lettres d'information. Eh bien, dès lors que les données comportent des données à caractère personnel, là aussi, il y a des conditions particulières que je vais évoquer et qui doivent aussi vous interroger sur la faisabilité de la réutilisation. Les données à caractère personnel, il faut faire attention, on en a une définition là aussi, hein, on est dans le droit européen adapté en droit français, on en a une définition très large. Ce n'est pas la même chose que le secret de la vie privée. Toute donnée qui permet d'identifier une personne est une donnée à caractère personnel. Que cette donnée soit nominative ou non. Si je mets à l'écran le numéro de sécurité sociale de l'un d'entre vous, j'ai diffusé une donnée à caractère personnel. Si j'ai dit, alors maintenant c'est Madame le maire par intérim de Levallois-Perret, je n'ai pas cité de nom, mais tout le monde sait de qui il s'agit. C'est aussi une donnée à caractère personnel. Ce n'est pas forcément une donnée incommunicable, hein, vous avez sur Wikipédia, vous avez des tas de données à caractère personnel, mais c'est un champ dans lequel il y a un droit qui s'applique, qui est le droit, cette fois, informatique et liberté, qui va protéger ces données, là aussi, pour éviter c'est au titre hein, du droit à l'oubli, pour éviter des mésusages de données personnelles. Ça, c'est la réutilisation. Donc, vous voyez déjà, tout ne peut pas être réutilisé ou ne peut pas être directement réutilisé. L'open data, évidemment, c'est encore plus particulier puisque vous allez plus loin dans la réutilisation. Donc, peut-être placé en open data, ce qui est librement communicable, ce qui ne comporte pas du tout de données à caractère personnel et qui n'est pas grevé de droits de propriété intellectuelle. Que vous les ayez négociés ou non, quoi que ce soit qui vous le permette, vous pouvez le réutiliser d'un côté, mais disons que dès que vous le permettez librement et sans contrôle de l'usage, vous devez vraiment respecter ces trois champs. Actuellement, je vais donner ensuite également quelques exemples, hein, ont été placés en open data des statistiques administratives, des rapports, mais évidemment pas la liste des personnes qui ont bénéficié de telles subventions, par exemple. Alors, en quoi sommes-nous concernés ? J'ai placé vraiment là le cadre général. Je vais venir à des exemples peut-être qui vont davantage vous parler. La réutilisation, elle porte sur les informations publiques contenues dans des documents au sens du code des relations entre le public et l'administration. Ce champ, il est très large. J'ai mis la définition, mais de toute façon, mon PowerPoint est réutilisable, donc je le laisserai à votre disposition et vous en ferez ce que vous voulez. Il est même, je pense, open datable, donc vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez. Il y a peut-être quelques images qui sont avec des droits de propriété intellectuelle, mais je nettoierai. Voilà, c'est pour la pédagogie de la présentation. Donc, des informations publiques, c'est une définition très large. Quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, ce sont les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Vous avez sûrement eu hier une définition de la notion d'archive publique. Vous voyez que c'est quasiment le même champ, c'est-à-dire tout document produit par... en fait, je pense que la plupart d'entre nous sommes des agents publics. Eh bien, la plupart des documents que nous produisons, à commencer par ce PowerPoint, que je suis agent public, j'ai produit dans le cadre de mes missions de service public, il a un support numérique, il est très récent puisque je l'ai fait il y a quelques jours. Mais voilà, c'est un document public. Quelques exemples dans le domaine de l'archéologie, qui sont donc des documents susceptibles d'être réutilisés. Outre les documents administratifs que vous produisez dans le cadre de votre activité, donc des bases de données, des dossiers de travail, des dossiers de fouilles, le droit de la réutilisation peut concerner des photographies que vous prenez, des dessins, des reproductions d'objets, et là aussi, quelle que soit leur forme, le croquis que vous prenez à la main sur un chantier, aussi bien que la modélisation qui en est faite sur tel ou tel logiciel ou après tel ou tel retravail. Exemple un peu peut-être tarte à la crème, mais voilà un exemple de réutilisation de photographies prises dans un contexte archéologique. C'est, je crois, la boutique de Lascaux pour faire des mugs. On retrouve l'exemple du parapluie avec la Joconde. Pour faire des mugs ou pour faire l'étiquette de telle boisson avec une reproduction d'une peinture de Lascaux, il a bien fallu réutiliser une photographie numérique qui a été prise d'une des parties de la grotte. Donc cette photographie numérique, dans la mesure où elle a été prise par un agent public, par un organisme chargé d'une mission de service public, il s'agit bien d'un document administratif. Alors c'est des notions qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir en tête quand on pense document administratif, surtout dans le domaine de la recherche. On se dit non, je ne suis pas concerné, les mots sont trompeurs. Hein. Je reviens à ce qui a été dit en introduction sur la notion de réutilisation. En fonction du contexte de travail dans lequel on est, de nos jargons, on a plus ou moins l'habitude, on se sent plus ou moins susceptible de s'approprier une notion. Il se trouve que ce sont des notions de droit et qu'il faut bien, alors c'est aussi l'avantage des formations, il faut bien les traduire, mais elles existent. Quand on dit la photo prise par un agent public de la grotte de Lascaux est un document administratif, ça fait bizarre, mais c'est le cas. Il y a évidemment la question des droits d'auteur qui se pose. Un document peut être administratif, mais avec des droits de propriété intellectuelle. Comme je vous l'ai dit, les documents sous droit d'auteur, sous droits patrimoniaux, ne sont pas réutilisables sans l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. Alors, je ne vais pas, là, parce que ce serait très long, faire un développement sur le droit d'auteur. Néanmoins, c'est, comme vous l'avez vu, un des freins à la réutilisation. En sachant, toutefois, que l'agent public a des droits assez particuliers en matière de droit de propriété intellectuelle, puisque l'agent public cède une grande partie de ses droits à son employeur, le droit de repentir ou de retrait, le droit de modification, le droit d'exploitation dès lors que celle-ci intervient dans le cadre de la mission de service public. Il conserve quelques droits seulement en cas d'exploitation commerciale. Donc là, je reviens à l'exemple de la boutique avec les objets dérivés de Lascaux. Évidemment, on est dans le cadre d'une exploitation commerciale et là, l'agent public garde ses droits. Mais dans un tas d'autres cas, par exemple une publication faite par l'institution dans laquelle on est, les droits sont cédés à l'agent public, à l'employeur. Le droit de la propriété intellectuelle, néanmoins, je précise, établit une distinction entre agents publics selon qu'ils sont soumis ou non à un contrôle, je cite, contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Donc, c'est ce qui permet notamment aux enseignants-chercheurs de bénéficier, disons, de leurs pleins droits patrimoniaux, de leurs pleins droits d'auteur, en tant que n'étant pas soumis au contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Mais il faut pouvoir prouver juridiquement, il faut qu'il y ait un texte hein, qui prouve, qui établit que vous ne, n'êtes pas soumis à ce droit, à ce contrôle préalable pardon, de l'autorité hiérarchique. Par exemple, pour les enseignants-chercheurs, il est bien précisé par le Code de l'éducation. Moi, en tant que conservateur du patrimoine, agent du ministère de la Culture aux Archives de France, je suis évidemment soumis au contrôle préalable de mon autorité hiérarchique, par exemple, qui m'a permis de venir vous parler ici. Et donc, je ne suis pas dans le cas où mes droits de propriété intellectuelle, où je bénéficie directement de mes droits de propriété intellectuelle pleinement. Donc ça, c'est vraiment pour faire en très très court, mais pour vraiment vous sensibiliser à ça, le petit passage sur les questions à se poser du point de vue du droit d'auteur. Alors, quelles sont les conséquences de tout ce droit de la réutilisation dans la mesure où je suis concerné par la réutilisation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je vais me placer, je suis désolé, à la fois, vu le public, à la fois du point de vue du fournisseur de données que du réutilisateur. Donc, en fonction de votre position, changer de regard, mais c'est toujours bien de savoir ce que, si on est producteur de données, ce que mon public peut faire, et à l'inverse, ce que je suis en droit d'exiger d'un fournisseur de données. Donc, j'essaye vraiment de parler à tout le monde, je suis désolé si je vais trop vite sur un point ou un autre, mais les questions seront là pour y remédier. La réutilisation depuis la fin de l'année 2015, elle est de droit et elle n'a pas à être justifiée. C'est un peu comme quand vous vous déplacez dans un service public d'archives. Dès lors que les documents sont librement communicables, vous n'avez pas à justifier de la recherche que vous menez. Personne ne peut s'y opposer, sauf motif d'intérêt général. Mais là, vraiment, je n'ai pas d'exemple à vous donner et pas de jurisprudence surtout à vous donner. Donc, jusqu'à la fin de l'année 2015, jusqu'à la loi Walter, il y avait une exception culturelle qui permettait aux services, par exemple, de bibliothèques, d'archives, de s'opposer à la réutilisation. Cette exception culturelle a sauté et donc, pour l'ensemble du champ de la réutilisation, elle est libre et gratuite. Le réutilisateur, donc la personne qui réutilise, doit respecter quelques règles essentielles qui sont, j'allais dire, déjà prévues par la directive, hein, ensuite transposées en droit national, qui sont des choses qui nous paraîtront, je pense, évidentes. La citation de la source, la non-altération. Évidemment, si vous mettez des moustaches à la Joconde, vous allez altérer le document d'origine et vous allez tromper la personne, votre public, sur ce qu'est le document d'origine. Donc, si vous indiquez la source, il faut que cela corresponde exactement au document que vous avez réutilisé. Et enfin, les conditions de réutilisation des données à caractère personnel. Là aussi, c'est comme la propriété intellectuelle. Je n'ai pas le temps de faire toute une explication de texte sur le droit de la propriété intellectuelle parce que, sur le droit des données à caractère personnel parce que ça pourrait prendre toute une matinée. Mais disons par exemple que la réutilisation des données à caractère personnel suppose par exemple l'accord des personnes concernées. Vous ne pouvez pas réutiliser les données de votre voisin sans lui avoir demandé son accord. La réutilisation est, comme je l'ai déjà dit, par principe gratuite. Les cas dans lesquels elle peut donner lieu à une redevance sont très limités et très encadrés. En gros, cela ne concerne que les fichiers images issus des opérations de numérisation et encore, j'ai voulu faire court dans ma diapositive, des institutions de conservation, bibliothèques, archives, musées. Donc, dès lors qu'un musée a entrepris la numérisation d'un certain nombre de documents, ces images peuvent donner lieu au paiement d'une redevance et encore avec un tarif très encadré par la loi. Donc, c'est vraiment l'idée hein, de favoriser la réutilisation qui a donné lieu à cette limitation extrême des cas de figure où l'on doit payer. Et il y a un cas de figure aussi particulier que je voulais citer. La réutilisation peut donner lieu à la cession d'un droit d'exclusivité dès lors qu'un opérateur a pris en charge la numérisation du patrimoine culturel. Donc si vous faites appel à un partenaire qui vous dit « moi je vous numérise tout votre corpus, mais en échange de l'argent que j'ai apporté, j'aimerais que bénéficier en gros de l'exclusivité de la réutilisation pendant une durée qui ne peut pas excéder 10 ans. La réutilisation peut être formalisée par une licence. Vous avez peut-être eu à signer des licences. Elles sont facultatives quand la réutilisation est gratuite. elles sont obligatoires si la réutilisation est payante dans les cas très précis que je vous ai cités. Si vous signez une licence gratuite, elle ne peut être, rédigée selon la bonne volonté de l'organisme qui détient les données. Elle doit être choisie dans une liste fixée par un décret. Décret qui n'a validé pour l'instant que deux licences. La licence ODBL, Open Data Base License, la licence ouverte, pardon, et la licence ODBL, Open Database License, qui sont listées par un décret. Si quelqu'un vous fait signer une autre licence pour une réutilisation gratuite, il est dans l'illégalité. Donc, les conditions de réutilisation ne peuvent être prévues que dans ces deux cas-là. Souvent, les administrations publiques ont choisi la licence ouverte, que voici donc la licence écrite par l'organisme public Etalab, rattaché au service du Premier ministre, qui est en fait une licence qui rappelle le droit de la réutilisation que je vous ai donné. C'est de la pédagogie, en fait. Alors concrètement, je parle du secteur patrimonial, là aussi, très largement. Pour l'instant, et on l'a vu, je suis assez content d'avoir vu ce gros nuage cloud de la licence de l'Open Data, le droit de la réutilisation est encore lent à être mis en œuvre dans nos secteurs patrimoniaux. En voici quelques exemples, mais on est là pour la favoriser. Dans le domaine de la culture, sur data.gouv.fr, donc qui est la plateforme qui rassemble les données des organismes publics qui mettent en open data leurs jeux de données, vous voyez, vous avez la liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques, la liste des musées de France, la base des termes scientifiques et techniques, vous en avez d'autres dans tous les secteurs patrimoniaux. Vous les retrouverez sur, alors ça c'est encore data.gouv, encore des jeux de données, donc là de l'INRAP pour la localisation des sites de fouilles archéologiques de l'INRAP, la discussion des rapports de fouilles archéologiques préventives. Je pense que tout ça vous est familier. N'hésitez pas à aller voir également du côté de data.culture.fr qui vous donnera également des jeux de données normalement qui se retrouvent sur data.gouv.fr. Donc ce sont deux plateformes qui sont en communication et qui s'échangent, disons, les jeux de données. Vous avez également des plateformes d'open data aussi au niveau des collectivités qui, elles, ne sont pas forcément en interopérabilité avec, en tout cas en connexion avec les plateformes nationales. Là, c'est l'exemple du Grand Est où vous avez l'inventaire du patrimoine culturel lorrain, l'architecture en 2017, la liste des entrées d'archives dans les fonds des archives régionales de Lorraine. Ce sont également quelques exemples, mais ça vous donne une idée un petit peu du début de la mise en œuvre de cette réutilisation dans le domaine patrimonial en particulier, qui s'était longtemps tenu à l'écart de ce mouvement parce qu'il bénéficiait d'une exception culturelle aussi. Donc désormais, depuis en gros début 2016, le mouvement est quand même beaucoup plus large. Voilà, j'ai essayé de tenir le temps. Je suis évidemment à votre disposition pour des questions. Et puis, si vous n'osez pas les poser ou si ensuite mes réponses ne vous semblent pas assez claires ou ma présentation pas encore assez claire, on a un carnet de recherche sur hypothèse qui s'appelle « Droit des archives », avec c'est très chic le S entre parenthèses, et sur lequel on a publié tout ce que je viens de vous dire, sans images, sans PowerPoint certes, mais avec un texte auquel on peut se reporter, qui ne concerne pas donc que le domaine stricto sensu des archives, mais tout le domaine, tout le champ de la réutilisation des informations publiques et qui vous permettra de vous rappeler ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et également, je l'ai dit sous forme de plaisanterie, mais mon PowerPoint sera sur je le laisserai sur l'ordinateur. Après, si vous avez l'occasion de le diffuser d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucun problème. Je vous remercie de votre souriante attention et je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez.